Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu, que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la paix et la joie dans son cœur et dans sa vie. Frères et sœurs, levons-nous pour nous placer résolument devant Dieu avec le chant du premier spontané indiqué au début du livret liturgique. Ô Seigneur, ta fidélité.
Et c'est Apolline qui va nous guider dans la louange.
Les psaumes nous appellent à nous tourner vers Dieu avec reconnaissance, comme ce psaume 81. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse, sonnez du cor pour l'an nouveau, qu'entrevient le jour de la fête. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé mon fardeau, elles ont brisé nos chaînes. Criez de joie pour Dieu, il est notre force. Acclamez le Dieu de génération en génération.
Merci Apolline. Eh bien, nous allons maintenant chanter ensemble donc ce psaume 81 que tu viens de nous lire. Donc les strophes impaires 1, 3, 5, 7 du psaume 81 dans le grand livre Le Psautier français. Voilà, vous pouvez prendre place. Donc c'est vraiment une joie de se retrouver ensemble, en famille, donc pour vraiment chercher ce que Dieu a à nous dire, nous ouvrir à sa grâce et le remercier pour tout ce qu'il nous apporte jour après jour. Maintenant, c'est Ondine qui va nous dire quelle est la volonté de Dieu.
L'apôtre Paul nous propose de suivre le chemin de l'évangile du Christ avec ce poème. Voici la voie par excellence. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de moche, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour trouve sa joie dans la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour.
Merci. Donc face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Alors c'est Hortensia qui va nous guider dans cette prière.
Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à l'écoute de ta parole, qu'elle soit comme cette eau qui creuse notre cœur de pierre. Chaque fois que nous pensions à toi pour nous ouvrir par la prière à ton souffle, qu'il nous donne un cœur de chair qui aime enfin en vérité.
Merci beaucoup. Nous recevons ensemble l'annonce du pardon de Dieu qui va nous être dite par Nicolas.
Le Christ nous a donné la certitude de la bienveillance de Dieu pour nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que nous ayons confiance en toi, grâce à lui, et que nous ayons une vie plus forte que tout. Tes fautes sont pardonnées. Ta foi t'a sauvé. Avance en paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
Merci beaucoup. Et pour confesser notre foi, eh bien, nous suivons du cœur ce que va nous lire maintenant Diane.
En réponse à l'amour de Dieu, je vous propose de vous unir à cette confession de foi. Je crois en un seul Dieu, notre Père, le Créateur. Il a pour chacun des projets de vie et de foi. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il est Fils de l'homme et fils de Dieu. Il est source de lumière et de vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous est offert comme un cadeau. L'Esprit nous rend capables d'avoir la foi et il ouvre devant nous une véritable espérance. Je crois que par l'amour, la vie est belle et vraie, et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Seigneur, augmente notre confiance en toi. Amen.
Merci, Diane.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen.
Vous pouvez prendre place.
Si vous voulez, on peut continuer sur ce rythme. On était plutôt sur un rythme marathon, mais on peut faire semi-marathon. Alors, nous continuons à dérouler les écrits de l'évangéliste Luc. Luc qui a écrit une suite à son évangile. C'est le livre des Actes qui est également dédié à ce Théophile, celui qui aime Dieu. Et ce matin, nous allons tout particulièrement lire un épisode qui met Pierre en scène, c'est au chapitre 12, nous allons lire les 11 premiers versets. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là, et Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il lui dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et qu'il m'a délivré de tout ce que le peuple juif attendait. » Frères et sœurs, avant de découvrir que ce texte est dans une ambiance très liée à Pâques, eh bien chantons d'ores et déjà le cantique 354, aux strophes 1, 3 et 4. Levons-nous pour chanter ce cantique pascal. Donne-nous, Éternel, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne bonne nouvelle pour notre vie. C'est le moment maintenant, je crois, pour les enfants de l'école biblique de partir avec Marc et quelques catéchètes pour continuer un culte adapté à leur tranche d'âge. Cela me donne l'occasion de vous rendre attentif au fait qu'un chœur d'enfants a donc été créé par Fabien Aubé, le chef de chœur, et que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants sont évidemment les bienvenus. Les rencontres ont lieu le mardi à 18h à la salle Mono. Cette activité est tout à fait importante car vous savez que l'un de nos projets est d'au moins égaler Westminster. Donc nous avons besoin d'un chœur d'enfants. Voilà, chers frères et sœurs, même si en France nous avons la mémoire courte, nous nous souvenons que la semaine dernière nous fêtions Pâques. Nous l'avons célébré, je crois, de belle manière. Ce fut l'occasion d'une belle fête célébrant la résurrection, autrement dit, la victoire décisive sur tout ce qui, de près ou de loin, ressemble aux forces de la mort. Mais qu'est-ce que cela change au juste ? Une semaine après, est-ce que notre monde est vraiment dans la dynamique de Pâques ? Est-ce que le monde est enfin en paix ? Est-ce la fin des mauvaises nouvelles ? Eh bien, en fait, toujours pas. Et dans une certaine mesure, chers catéchumènes, je comprends que vous considériez que parfois ce que nous disons dans l'Église est un peu sans rapport avec la réalité, que nous nous réjouissons peut-être un peu vite, alors que ce que nous voyons au jour le jour n'est pas aussi agréable que ce qui est dit en chair. Entre la semaine qui a précédé Pâques et celle qui vient de s'écouler, effectivement, nous ne pouvons pas dire que la vie ait changé du tout au tout, loin de là. Et même avec un brin de pessimisme, on pourrait presque dire qu'en fait, ça ne s'arrange pas. Selon peut-être cette fameuse loi de Murphy qui veut que quand ça peut s'aggraver, ça s'aggrave. Eh bien, figurez-vous que c'était déjà le cas au temps des récits bibliques et notamment de ce chapitre 12. Ce chapitre 12 raconte l'histoire des chrétiens quelques semaines, quelques mois, quelques années après l'événement de Pâques, cet événement décisif pour la foi chrétienne. Et avec ce chapitre 12 du livre des Actes, nous faisons comme un bond en arrière. Peut-être avez-vous été frappé lorsque vous avez entendu que nous étions au temps du roi Hérode. Alors évidemment, ce n'est pas le même Hérode que celui du début des évangiles. C'est le petit-fils, c'est Julius Agrippa Ier que Luc nomme Hérode. Une façon de dire que, par bien des aspects, l'histoire se répète. Et peut-être pouvons-nous ressentir une sorte de résignation finalement face à une histoire qui inlassablement se répète et resserre les mêmes plats, et des plats qui sont un peu sans saveur, des plats qui parfois sont assez désagréables. Je parle de cette actualité. Eh bien, il y a comme un petit goût d'éternel recommencement avec ce que Luc écrit dans ce passage du livre des Actes. Et puis, il y est question aussi de cet Hérode qui maltraite les membres de la communauté primitive. Eh bien, cela nous fait penser à d'autres recommencements. Hérode, selon l'évangéliste Matthieu, était mort au moment où Joseph, Marie et Jésus étaient en Égypte. Égypte qui est pays de sinistre mémoire, si on se rapporte au livre de l'Exode, où le Pharaon maltraitait son peuple. C'est évidemment à chaque fois le même terme qui est utilisé. Le livre de l'Exode s'ouvre sur la maltraitance du peuple de Dieu. Les évangiles s'ouvrent sur la maltraitance de la famille qui va faire revivre le peuple de Dieu. Et ici encore, dans le livre des Actes des Apôtres, la maltraitance est à l'ordre du jour. L'histoire semble une sorte d'éternel recommencement. Et dans ce cas, quel peut bien être l'intérêt de continuer à s'intéresser aux questions religieuses qui disent qu'en principe c'est censé s'arranger ? Si nous regardons attentivement ce passage des Actes des Apôtres, peut-être allons-nous découvrir que Luc nous propose un autre enseignement que cette résignation à une sorte de fatalité inexorable. Certes, l'auteur du livre des Actes nous montre que cette histoire se répète, et pas seulement en répétant ce que Jésus a vécu. L'histoire semble tourner en boucle, effectivement, nous sommes comme sur une sorte de disque rayé, et tout porte à penser que la vie serait comme une sorte de grand rond-point, un sens giratoire duquel nous ne pourrions pas sortir parce qu'il n'y aurait que des panneaux sans interdit. Mais ce passage biblique nous enseigne aussi autre chose et c'est là-dessus évidemment que je veux attirer votre attention. Tout d'abord, ce qui est frappant, c'est que si c'est de la même manière que Luc désigne ceux qui sont à l'origine de la maltraitance, Hérode et Hérode, les générations qui subissent sa maltraitance ne sont pas les mêmes. C'était autrefois Moïse, puis ce fut Jésus, c'est maintenant Jacques, le frère de Jean, et Pierre. Autrement dit, l'évangéliste nous rend attentifs au fait que l'histoire ne se répète pas tout à fait. Il y a quand même de nouvelles personnes qui entrent dans cette histoire. Il y a de nouvelles générations qui viennent au monde. Et ce que Luc peut-être essaie de nous dire, c'est que chaque génération qui vient au monde doit traverser, elle aussi, quelques étapes qui ont elles-mêmes été franchies par les aïeux. Je veux dire que notre vie serait peut-être pour une part la traversée de quelques étapes universelles. Peut-être qu'il faudrait considérer que, qui que nous soyons, nous avons quelques étapes à franchir, et je vais essayer de vous le montrer, quelques exodes à effectuer. Chaque génération qui vient au monde doit vivre pour une part ce qu'ont vécu les générations précédentes. Si je prends le cas de l'Exode précisément, l'objectif est d'être arraché à la main du Pharaon, dans le chapitre 18. Avec l'évangéliste Luc, au chapitre 1, au moment de la naissance de Jésus, il s'agit d'être arraché à la main des ennemis, de ceux qui nous haïssent. Et ici, dans le livre des Actes, il s'agit d'être arraché à la main d'Hérode. Vous voyez, à chaque fois, il y a cette idée que nous devons être libérés. Alors ce n'est pas une histoire qui tourne en boucle, c'est une histoire où il y a à chaque fois un nouveau commencement. De même qu'il vous faut apprendre l'usage de la parole, que cela n'est pas inné, eh bien il faut aussi profiter d'une dynamique de libération. Cela n'est pas inné. On ne naît pas libre en fait, on le devient. Et les évangiles nous rendent attentifs à cette nécessité. La nécessité d'être libéré. D'être libéré, nous allons le voir, du milieu dans lequel on est, d'être libéré de beaucoup de forces qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Le rédacteur de ce passage établit très clairement un parallèle entre l'aventure de Pierre et la sortie d'Égypte, qui est réputée être le pays de servitude, le pays de l'esclavage. On le voit avec la figure de l'ange. C'est un ange qui vient aider Pierre à sortir de la prison dans laquelle il a été enfermé. De même que c'est un ange que Moïse voit, l'ange du Seigneur, même expression, aussi bien au moment du buisson ardent que lorsqu'il va falloir sortir physiquement de ce pays d'Égypte et qu'un ange précédera le peuple hébreu dans sa future traversée du désert. La manière même de sortir de la prison évoque bien sûr la manière de célébrer la Pâque juive, celle qui célèbre la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, l'évangéliste Luc rapporte ici que nous sommes dans un contexte de Pâque. La fête des pains sans levain vient d'avoir lieu, on s'apprête à célébrer la Pâque, et Pierre va être convoqué devant Hérode une fois que la Pâque aura été célébrée. Oui, la manière est la même. Il s'agit de mettre une ceinture sur ses reins, de chausser ses sandales promptement. Trois expressions qui reviennent dans le livre de l'Exode au moment de célébrer la Pâque pour sortir de la servitude. Autrement dit, l'évangéliste Luc met en évidence que ce qui arrive à Pierre n'est peut-être pas une nouveauté, mais un impératif. Un impératif par lequel il doit passer pour être vraiment libre. Et puis il y a évidemment un parallèle avec une autre fête de Pâques, c'est la Pâque du Jésus crucifié que nous avons célébrée la semaine dernière. Il suffit d'être un peu attentif aux verbes qui sont utilisés pour entendre que Pierre est doublement ressuscité dans cet épisode. D'abord parce que l'ange vient le réveiller en le secouant un peu sur le côté. Éveillé, c'est l'un des mots qui est traduit par ressuscité. Et puis il lui dit « Lève-toi, Anasta ». Et ça, ça veut dire « ressuscite ». Doublement ressuscité. Les deux mots qui disent la résurrection dans les textes bibliques sont ici même. Il est éveillé par l'ange et il est mis debout. Et c'est intéressant parce que vous êtes encore dans un moment où vous ne savez pas trop que faire de la résurrection. C'est quand même un peu embarrassant cette histoire de résurrection. Eh bien ici, nous avons un texte qui nous explique la résurrection en termes de libération. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est ce processus de résurrection. Voyons quel est le problème de Pierre. Quelle est la nature de l'enfermement de Pierre? Pierre est lié par des chaînes, il est entre deux soldats et il dort. Tranquille. Pas très inquiété, Pierre, finalement. Il est un peu comme celui qui ne serait inquiet de rien et qui peut s'endormir tranquillement. Le travail du messager de Dieu va être donc de réveiller Pierre et de lui dire de se lever. Et en indiquant qu'il dort, il me semble que le rédacteur indique que Pierre s'est comme habitué à son état. C'est comme s'il s'était habitué à la maltraitance qu'il subit. Comme si cela, finalement, n'était plus un problème pour lui, qu'il l'avait accepté. Pierre n'a rien à révolter ici. Il ne clame pas son innocence, il ne crie pas à l'injustice, il n'essaie pas de se défaire de ses liens. Il a l'air d'être assez tranquille avec ce qui se passe, comme résigné finalement. Il accepte d'être maltraité par Hérode, comme il peut arriver à d'autres d'accepter d'être maltraité par des camarades, par des collègues de travail, peut-être par un conjoint, par un parent, par une institution, même par soi-même, lorsqu'on s'habitue à son mal-être, lorsqu'on s'habitue à être déçu par soi-même, lorsqu'on se résigne, comme Pierre, à une vie étriquée, à une vie entravée, à une vie sous-dimensionnée. Pierre est peut-être la figure de ceux qui acceptent la maltraitance, finalement. L'ombre d'une vie, simplement. Pierre s'est endormi, sa conscience s'est comme assoupie. Il n'est pas du tout dans une attitude de révolte, il n'est pas du tout dans une attitude de vivacité, mais plutôt de résignation. Et c'est là que la dimension religieuse va reprendre ses droits et qu'elle va être extrêmement nécessaire pour Pierre. Et c'est un messager de Dieu qui va être, en quelque sorte, le transmetteur de cette dynamique de vie. Le messager de Dieu prolonge finalement la prière de la communauté. Je suis peut-être passé un peu vite, mais la communauté prie, là où Pierre n'est pas du tout dans une attitude priante. Et ce que fait la communauté, c'est peut-être ce que faisait autrefois la communauté hébraïque lorsqu'elle était esclave en Égypte. Elle faisait monter vers le Père de miséricorde l'expression de sa souffrance, le soupir. Un soupir dont il est dit que Dieu l'avait entendu. Eh bien, peut-être qu'ici, la communauté fait s'élever le soupir d'une humanité maltraitée, malgré Pierre ou contre Pierre, qui lui s'y est peut-être habitué. Pierre, l'homme des compromis. Pierre, l'homme qui accepte l'adversité, sans rechigner. Pierre, celui qui accepte que le chef de la communauté primitive de Jérusalem lui dise que la commensalité avec les non-juifs n'est pas de mise. Et Pierre s'écrase. Pierre s'écrase devant le chef de Jérusalem, Pierre s'écrase devant l'autorité politique, Pierre s'écrase. Il accepte d'être maltraité. Et l'intervention de l'ange va être de le réveiller. De réveiller la conscience de Pierre et de donner une nouvelle consistance à sa vie en le remettant debout. Il cesse d'être l'ectoplasme qui accepte n'importe quelle situation. Il redonne consistance puisqu'il est debout. Il faut donc qu'il y ait un minimum de fermeté chez Pierre pour pouvoir être debout et aller. Eh bien, voilà l'intérêt de la religion. C'est de redonner un peu de consistance à notre vie lorsque nous sommes sur le point de baisser les bras et d'accepter une injustice, d'accepter une mauvaise situation, d'accepter que d'une manière ou d'une autre, nous soyons maltraités par un autre ou par nous-mêmes. Pierre va être comme libéré d'un état végétatif auquel il s'est habitué. Il va reprendre pied dans son histoire, voilà l'intérêt. Et ce que provoque le messager divin, je dirais que c'est une insurrection. Pourquoi parler de résurrection ? Insurrection. Il y a quelque chose de neuf chez Pierre, une insurrection. Pierre est libéré de sa résignation. La résignation dit la répétition avec le préfixe « re ». Autant parler de nouveauté, avec quelque chose que l'on injecte dans la personne. Insurrection plutôt que résurrection. Il va être libéré non seulement de la main d'Hérode, dit le texte, mais aussi de tout ce que le peuple juif attendait. C'est-à-dire qu'il est libéré d'une attente qui n'était pas forcément la sienne. Il était libéré de formes religieuses préétablies. Il est libéré de ce qu'on l'obligeait à penser et à croire finalement. Il est libéré d'une histoire qui n'était pas la sienne. Il a le droit d'avoir sa propre histoire. Ce passage est un manifeste pour une foi qu'on n'arrive pas à domestiquer. Une foi qu'il n'est pas possible d'emprisonner. Je dirais, peut-être avec Laurent Gagnebin et Raphaël Picon, qu'il s'agit là d'un manifeste en faveur d'une foi insoumise. Car la foi, la confiance en Dieu, dans le Dieu de Jésus de Nazareth, ce n'est pas l'histoire d'une soumission docile au temps présent. Et là, par exemple, je vous trouve extrêmement docile et extrêmement soumis face au prédicateur qui vous assène quelques vérités et que vous semblez accueillir avec la plus grande des résignations. Peut-être un peu accablé aussi. Si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-le. Si vous êtes particulièrement d'accord, ce qui serait très compréhensible, exprimez-le aussi. Ne soyez pas comme coincé entre un conseil presbytéral et une communauté qui vous garderait et qui vous empêcherait d'être vous-même. Voyez plutôt cette communauté comme un terreau qui vous permet de vous épanouir. Certes, vous prenez la sève qui est là, mais pour porter vos propres fruits. Pierre est libéré de sa résignation, et c'est ça que je retiens. La foi chrétienne n'est pas une gymnastique qui nous apprend à courber les chines sans trop de douleur. La foi chrétienne n'est pas un anesthésiant. La foi chrétienne est une insurrection. La foi chrétienne est insoumise parce qu'elle nous parle de l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres dans la foi, qui est un Dieu insoumis et qui a toujours suscité des hommes et des femmes insoumis. C'est un Dieu qui ne se laisse pas enfermer, c'est un Dieu qui ne se laisse pas réduire à une chose, à un lieu, à un temps, c'est cela dont parlent les textes bibliques. L'Éternel n'appartient à personne, aucune institution ne peut le dompter ou le maîtriser. Et nous qui nous évertuons à être ses disciples, nous sommes de la même trempe. Ce que nous montre ce passage biblique, c'est que le chrétien est lui-même insaisissable. Ce que dit ce texte biblique de manière métaphorique, c'est qu'aucune barrière n'arrête la prédication de l'évangile de Jésus. Aucune entrave n'est assez forte, assez efficace pour ligoter une conscience marquée par cette foi chrétienne. Cela tient au fait que les chrétiens ne s'en remettent pas à un pouvoir humain. Cela tient au fait que les chrétiens ne s'en remettent pas à leur propre force, mais à l'autorité de Dieu. Voilà qui fait la différence. Petit excursus sur la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est l'art de la contrainte. Le pouvoir, ce serait ma capacité à vous faire faire des choses même si vous ne le voulez pas. Ce qui peut être possible, mais je ne le ferai pas devant des témoins. Le pouvoir, c'est l'art de mener quelqu'un sur une croix s'il ne suit pas le chemin que d'autres ont tracé pour lui. Et c'est la possibilité de l'obliger à mourir de cette manière-là. Le pouvoir, c'est la force que l'on peut exercer sur quelqu'un pour le contraindre à faire quelque chose, et en particulier à le faire s'il ne le souhaite pas. L'autorité, elle, c'est bien autre chose. D'ailleurs, quand on pense autorité, il faudrait tout de suite que nous pensions autoriser, autorisation. L'autorité autorise, elle rend possible. Et pensez bien à cela lorsqu'on vous parle d'autorité parentale. L'autorité parentale, ce n'est pas vous empêcher de mener votre vie, c'est vous autoriser à mener une vie exceptionnelle. Et donc vous donner les moyens de pouvoir faire cela. Là où le pouvoir des hommes peut pendre quelqu'un au bois, eh bien, les textes bibliques nous disent que l'autorité de Dieu peut l'en libérer. Là où le pouvoir des hommes peut enfermer, emprisonner, l'autorité de Dieu peut libérer des cachots. Là où le pouvoir des hommes est capable de tuer, l'autorité de Dieu ressuscite. Ce texte montre l'effort de Dieu, pour libérer notre conscience quand des hommes tentent de prendre le pouvoir dessus, tentent de la rendre captive, lorsqu'ils essaient de l'enfermer et de la mettre à l'étroit sous bonne garde, avec aucun degré de liberté, avec des chaînes et avec des gardes et avec des gardes des gardes. Alors si le texte, dans sa manière de raconter cette histoire, a conservé des traits merveilleux, les traits merveilleux d'une libération que l'on pourrait qualifier de miraculeuse, c'est pour montrer que ce genre de libération n'a rien d'ordinaire, qu'elle n'a rien de naturel. La libération de prisonniers hors d'une cellule sans que les gardiens en faction devant la porte s'en rendent compte et sans que la porte soit fracturée, quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, les libérations d'otages récentes confirment cela. Ce texte, en décrivant cette scène biblique de manière surnaturelle, dit juste. Il dit juste parce que le mode opératoire est surnaturel, c'est-à-dire supérieur à notre propre nature. Précisons en quoi cela est surnaturel. Cette libération de Pierre ne se fait pas dans un bain de sang. On n'assassine pas les gardes, on ne les blesse même pas. Aucune violence n'est commise. On est à milieu de toutes ces libérations d'otages où finalement, dans une certaine mesure, on entend une sorte de satisfaction à ce que les preneurs d'otages soient assassinés, tués, qu'ils n'en réchappent pas. Sous-entendu, bien fait pour eux. Et bien ici, nous sommes dans une autre logique. Avec Dieu, la libération consiste à sauver ceux qui sont abusivement captifs, sans porter atteinte à l'intégrité de ceux qui les retiennent. Alors évidemment, ce texte biblique n'est pas le protocole pour les forces spéciales ou pour les unités spéciales de la gendarmerie ou de la police nationale. Ce texte nous renvoie à une autre dimension de prise d'otage, non pas les prises d'otage physiques, mais les prises d'otage idéologiques. La question est comment se libère-t-on d'une prise d'otage idéologique ? Par une révolution qui coupe les têtes et qui ensuite les place hardiment sur des pics ? Ou est-ce par une révolution intérieure qui emporte tout sur son passage ? Eh bien voilà qui est surnaturel. C'est qu'ici, on ne répond pas à la violence des hommes par une violence égale ou supérieure. Cet événement est surnaturel parce qu'il ne se déroule pas comme il devrait l'être s'il suivait le cours naturel des choses. Cela est au-dessus de notre nature qui nous pousse plutôt à agresser ceux qui nous ont agressés et à faire retomber sur les bourreaux et sur leurs enfants le sang de leurs victimes. Quand Dieu libère, ce n'est pas en exerçant un pouvoir plus fort, mais en faisant preuve d'une autorité plus grande. J'aimerais finir par cela, frères et sœurs. Vous rappelez ou vous rendre sensible au fait que la foi chrétienne est une insurrection parce qu'elle refuse de céder à la tentation du pouvoir. On peut se dire qu'Hérode est celui qui a le pouvoir. Mais parce qu'il veut le pouvoir, il est en fait lui-même possédé par d'autres qui ont le pouvoir sur lui. Si Hérode agit de cette manière, c'est parce qu'il a envie de faire plaisir à d'autres. Et qu'il voit qu'en persécutant des pauvres malheureux, cela est agréable à une partie de la population. Et quand on veut le pouvoir, eh bien, on est sous la domination de ceux qui peuvent nous accorder le pouvoir. La foi chrétienne est une insurrection parce qu'elle refuse de se compromettre avec la tentation du pouvoir. La foi chrétienne est une insurrection parce qu'elle ne se complaît pas dans l'oppression des personnes au nom de quoi que ce soit, même pour la satisfaction de quelques-uns. La foi chrétienne est une insurrection parce qu'en tirant son autorité de Dieu plutôt que du pouvoir des hommes, le chrétien n'a rien à conquérir. Et comme il n'a rien à conquérir, il n'a rien à mater, il n'a rien à soumettre, parce qu'il a déjà reçu tout ce qui lui était nécessaire pour son identité. La foi chrétienne est une insurrection parce que, libéré du devoir de faire ses preuves, ce que le baptême atteste, puisque nous baptisons des enfants qui n'ont encore accompli aucune œuvre, qui n'ont encore aucun mérite. Nous leur disons qu'ils sont déjà tout à fait dignes d'être appelés humains. Eh bien, parce que le chrétien n'a pas besoin de faire ses preuves, il peut entièrement se consacrer à la vie bonne, entièrement se consacrer à l'amour du prochain, sans chercher à acquérir une sorte de notoriété, sans avoir besoin de chercher à plaire pour pouvoir exister. Il est libéré du regard des autres qui serait la seule justification à sa présence ici. Qu'un homme soit réveillé de sa torpeur et qu'il se lève, il devient libre, profondément libre. Prenez conscience que vous êtes d'ores et déjà des êtres humains, que vous avez en vous tout ce qu'il faut de dignité pour pouvoir accomplir votre vie, que vous n'avez pas besoin d'être dans des rapports de séduction, que vous n'avez pas besoin de courber les chines pour faire plaisir aux uns, que vous n'avez pas besoin d'acquiescer aux idées des autres alors que vous les estimez injustes pour pouvoir acquérir leur faveur. Vous n'avez pas besoin d'être dans des phénomènes de cour où il s'agit de flatter pour recevoir quelques récompenses en échange. Vous n'avez pas besoin de vous résigner. La religion sert à cela, réveiller notre conscience sur le fait que nous n'avons pas besoin de marchander notre dignité. Et à partir de ce moment-là, nous sommes libres, terriblement libres, libres. Plus aucun pouvoir n'a de prise sur nous, plus aucune stratégie ne peut fonctionner. On ne peut plus nous faire chanter. Il n'est plus possible de faire pression. Il n'est plus possible de corrompre ou de contraindre. Certes, on peut toujours violenter quelqu'un. On peut toujours faire plier son corps. On peut même le mettre dans un cachot. Mais il n'est plus possible de maîtriser sa personne. Il est vraiment libre. Il est vraiment libre celui qui a vécu son exode hors du cachot de ses résignations. Amen. Le cantique 403 « Prends ma main dans la tienne » sera l'occasion de prolonger notre méditation, les strophes 1, 3 et 4. Prenons place pour partager des informations. Bon, bien évidemment, si vous n'avez pas ouvert votre poste de radio parce que les grèves, etc., sachez qu'hier, le Paris Saint-Germain a gagné 4-0 contre Bastia. Et donc, on a gagné la Coupe de la Ligue, ça, c'est fait. Bien. Pour ce qui est de nos activités paroissiales, tout à l'heure, nous aurons le plaisir de baptiser Héloïse, la fille de Julie et de Jean-Baptiste d'Ancre. Nous profitons pour saluer les familles d'Ancre, Buisson, et nous allons nous réjouir de ce beau moment après le moment d'offrande. En quittant cette salle de culte, vous pourrez vous rendre dans la grande sacristie. Un pot d'accueil sera servi. C'est l'occasion de pouvoir faire connaissance les uns les autres, de retrouver aussi quelques personnes. Il y a notre conseiller presbytéral Bernard Guttinger qui se tiendra dans la chapelle à l'entrée, la chapelle du pasteur Marron. Si vous avez quelques questions, parce que vous venez d'arriver dans la paroisse, si vous voulez avoir quelques renseignements, eh bien voilà, nous avons un conseiller presbytéral d'accueil qui est aussi à votre disposition à la sortie. À la sortie d'ailleurs, vous pourrez laisser vos recueils de chants sur la chaise qui est au bout des rangs, ce qui facilitera comme cela les déplacements. Cet après-midi, donc, les enfants de l'école biblique, les catéchumènes continueront leurs activités catéchétiques jusqu'à 16h et le retour se fera donc salle mono en face au deuxième étage. Dans les informations donc liées à nos activités, vous dire qu'à 16h aura lieu ici un concert hommage au Castrat. L'entrée est libre. Demain, 13 avril, à 20h, a lieu notre approfondissement théologique. Cette séquence sera consacrée à la question du salut. De quoi sommes-nous sauvés? C'est à 20h, salle mono, au deuxième étage. Mardi, à 14h30, l'étude biblique consacrée aux lettres de Paul. Cette fois, l'épître aux Corinthiens, les premiers versets sur la théologie de la croix. À 18h, donc, le chœur d'enfants se réunit sous la direction de Fabien Aubé. Et à 20h, dernière séquence de notre initiation théologique. Le lendemain, mercredi 15 avril, il y a le groupe biblique œcuménique qui se réunit à 20h, salle mono, sur la question de la liberté. Et ici même, à 20h30, un concert dirigé par Fabien Aubé, un concert intitulé « De psaume en psaume ». Ce sera avec le chœur Maurice Ravel de Levallois. Il y aura notamment des œuvres de Mozart, de Mendelssohn, et la billetterie sera sur place à partir de 30 minutes, les 30 minutes qui précéderont le début du concert. Les places sont entre 5 et 10 euros. Le chœur, justement, se réunira le lendemain à 19h30 pour sa répétition hebdomadaire, et les étudiants et jeunes actifs se réunissent également à 19h30, avec comme thème « Sommes-nous libres, même de Dieu ?» Et donc, les étudiants et jeunes actifs qui le souhaitent se réunissent dans la salle du rez-de-chaussée de la maison presbytérale et ceux qui le peuvent apportent un petit quelque chose à grignoter pour que nous partagions le dîner. Dimanche prochain, le culte sera présidé par Marc et l'après-midi, eh bien, il y aura la possibilité pour ceux qui le souhaitent de passer un moment de découverte culturelle. C'est le dimanche après-midi de l'oratoire. Ai-je oublié des choses ? Oui ? Le concert de cet après-midi, donc l'hommage au Castrat, est à 17h. Merci Christophe pour cette précision. Eh bien, maintenant, il nous reste à recueillir votre offrande et que cette offrande soit généreuse. Sentez-vous libre, pas de conformisme dans l'offrande.
tête, il y aura une prière et elle va se prolonger par notre Père. Donc, il y a le baptême, l'accueil, les parrains marraines vont parler. Ensuite, il y a une toute petite prière de notre Père.
Prière d'intercession, voilà, c'est tout fidélité, je ne sais plus. Ouais, ouais. D'accord.
Je vous invite à vous approcher de ce baptistère, vous les parents, marraines, parrains. Venez donc par ici pour que vous soyez bien visibles des uns et des autres. Voilà, c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans ce temps où nous allons dire de quelle manière Héloïse s'inscrit aussi dans cette dynamique d'alliance, dans cette grande famille dont l'oratoire est aujourd'hui l'un des visages particuliers. Alors évidemment, c'est un plaisir particulier pour nous parce que cela permet, comme à chaque baptême, de pouvoir répondre à notre vocation, puisqu'au moment de quitter ses disciples, Jésus leur laisse cet équipement, et cet équipement consiste dans quelques paroles d'accompagnement. Il leur dit, voilà, je vous demande simplement d'aller, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Il ajoute cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous avons l'habitude d'avancer ce baptistère. Il est souvent quasiment à la verticale de cette colombe qui est au sommet de l'oratoire, une évocation de l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe au moment du baptême de Jésus. Eh bien, c'est une manière de rappeler qu'il y a cette promesse ancienne qui est un nouveau commencement pour chaque personne qui vient au monde, cette promesse qui est de dire « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Ainsi donc, aujourd'hui, même si tu ne le sais pas encore, Héloïse, eh bien, il y a cette parole divine qui fait dire que tu es mon enfant bien-aimé. Tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel. Et aussi certainement que de l'eau va couler sur ton front, eh bien, cette parole est vraie. Dieu nous a aimés le premier. Le baptême est le signe de cet engagement. Tu es au bénéfice de cette vie qui te porte. Alors, en demandant le baptême pour Héloïse, vous avez souhaité qu'elle reçoive le signe de la grâce. La grâce s'exprime par le fait qu'elle n'a rien demandé, mais qu'elle va tout recevoir. Je vous invite à vous approcher. Héloïse, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Héloïse, le Seigneur tourne son visage vers toi. Il fait briller sur toi sa lumière et te donne sa joie. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, dit le Seigneur, car je t'aime d'un amour éternel. Je t'emprunte quelques instants. Alors, c'est un amour respectueux. Juste le temps de te montrer, Héloïse. Voici Héloïse. Elle est ici chez elle. Alors, Voyez ce que signifie ne pas se résigner. Être libre. Pouvoir réagir. Voilà. Héloïse, tu es effectivement une jeune fille libre. C'est ce que nous avons essayé d'exprimer. Tu es ici chez toi, c'est ta communauté spirituelle. Voici ta famille spirituelle, tu peux compter sur elle. Ta place est à jamais marquée. Tu auras la liberté ou non de l'occuper. Et à supposer que tu t'éloignes de cette communauté, eh bien, ce sera notre manière d'être témoin de l'amour inconditionnel de Dieu en te disant que ta place est à jamais marquée. Et pour tout te dire et pour être franc, ce sera notre joie qu'un jour tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur avec nous. Tu retournes dans mes bras ? On se réadopte ? Bon. Pas du tout résigné. Très libre. Alors, ce baptême n'est qu'une étape sur le chemin de sa vie. Et je vais maintenant vous donner la parole pour que vous puissiez exprimer justement ce que vous espérez pour elle et de quelle manière vous allez vous efforcer que ton horizon soit large et profond.
Héloïse, tu as eu un an il y a peu. Tu t'ouvres de plus en plus au monde qui t'entoure. C'est pourquoi nous avons choisi ce moment de ta vie pour te baptiser. Tu commences à comprendre que tu n'es pas une personne isolée. Tu es entourée de toute ta famille, mais aussi de toute l'assemblée de l'oratoire aujourd'hui présente. Nous souhaitons que tu puisses grandir en partageant les valeurs qui nous sont communes à tous. La tolérance et le respect, l'entraide et l'amour. Nous, tes parents, ta marraine et ton parrain, ta famille, ainsi que toute la grande famille de l'oratoire, seront tous là pour t'accompagner et t'aider à les découvrir tout au long de ta vie.
Héloïse, tu ne dis rien encore, mais tu nous écoutes et tu nous regardes avec tes petits yeux malicieux. Tu vas être ma filleule et je serai ton parrain. Le parrain, c'est un peu celui qui aide les petits à grandir. J'ai trouvé une belle phrase de Khalil Gibran, un poète chrétien libanais qui a vécu au début du XXe siècle, un de ces chrétiens d'Orient dont on parle beaucoup ces temps-ci. Il a écrit dans un de ses livres « La jeunesse a des ailes, dont les plumes sont faites de poésie et les nerfs d'illusions. Des ailes qui élèvent les jeunes gens au-delà des nuages, d'où ils écoutent la vie chanter la gloire et la magnificence. Mais ces ailes poétiques ont au fait d'être déchirées dans la tourmente de la vie et de s'abattre sur le monde de la réalité. » Alors dans la réalité, je voudrais être là pour t'épauler à chaque fois que tu en auras besoin. Je voudrais t'aider à trouver des réponses quand tu te poseras de grandes ou de petites questions. Je voudrais t'aider à devenir une fille puis une femme épanouie et heureuse, honnête et aimable, courageuse et patiente. Je voudrais t'accompagner pour te rendre curieuse et sage. Sage pas comme un enfant sage, mais comme un adulte sage. Mais je voudrais qu'une qualité te résume avant tout. Je voudrais t'aider à être bienveillante. C'est une qualité importante et qui nous fait souvent défaut dans le monde moderne, la bienveillance. C'est une qualité précieuse partout sur Terre. D'ailleurs, pour les bouddhistes, Maitreya, c'est-à-dire le bienveillant, est le nom du prochain Bouddha attendu. C'est un peu leur Jésus-Christ, en fait. Autant dire que quelqu'un de vraiment bienveillant pourrait mettre le tiers du monde à ses pieds. La bienveillance, c'est non seulement envers ceux qu'on aime, mais surtout envers ceux qui nous sont plutôt indifférents. C'est un peu cette devise de l'évangile de Matthieu, vous connaissez tous. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors je voudrais t'apprendre qu'on peut prendre plaisir à faire du bien. Pas forcément à faire le bien, mais à porter sur les gens et les choses qui nous entourent un regard d'empathie et de douceur. Et puis à faciliter les choses plutôt que de les compliquer à chaque fois que l'occasion se présente. Héloïse, je voudrais faire quelqu'un de bien avec toi. Je voudrais que tu sois quelqu'un de bien.
Héloïse, je suis heureuse et fière de devenir ta marraine et te prendre pour filleule. Il y a un peu plus d'un an, tu as illuminé la vie des personnes qui t'entourent. Tu vas grandir et évoluer grâce à eux et avec eux. Et moi, je fais partie de ces personnes. J'ai pour toi le même amour que j'ai déjà pour mes deux enfants. C'est-à-dire un amour inconditionnel. Quoi que tu fasses, qui que tu deviennes, je t'aimerai toujours. Ce sentiment est important à te faire passer
pour que tu puisses exprimer tout ce que tu ressens, sans peur du rejet, sans peur du jugement. Grâce à cette relation, j'espère pouvoir te garder dans le bon chemin, pour que toute ta vie, tu puisses illuminer ton entourage par ce que tu es et ce que tu dégages. Amour.
Et nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance. Nous te louons. Nous te disons notre joie pour Héloïse, dont nous disons qu'elle a toute sa place dans l'Église, dans ton Église. Héloïse sur laquelle repose désormais la promesse de recevoir dès maintenant la vie éternelle. En présence de cette grâce infinie, nous sentons nos limites, mais nous éprouvons cette reconnaissance aussi. Alors donne-nous de prier avec fidélité pour ces petits que tu nous confies, de les élever avec amour, patience. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui a enseigné à ses disciples de quelle manière te prier, et c'est avec ces mots, en nous levant tous, que nous rassemblons toutes nos intentions dans cette prière universelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce Notre Père a été composé par Marie-Louise Giraud, qui fut longtemps notre organiste titulaire, et donc c'était pour Jean-Dominique Pasquet, notre organiste titulaire, et Fabien Aubé, notre chef de chœur, l'occasion de lui rendre hommage et aussi d'exprimer notre reconnaissance. Et si cela a été accompagné sur cet orgue, c'est parce que cet orgue a été légué par Marie-Louise à notre communauté. Voilà, frères et sœurs, recevons maintenant quelques paroles qui nous ouvrent cet horizon dont les évangiles nous parlent. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.